Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le journal des auditeurs, nouvelle édition du JDA, l'actualité vue par les auditeurs sur Africa Radio. Aujourd'hui, nous attendons vos commentaires et analyses sur le G5 Sahel. Alors, faute d'être efficace, ce cadre sous-régional de lutte contre l'insécurité est-il voué à disparaître, en tout cas face à une situation sécuritaire délétère, notamment au Burkina Faso? Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont annoncé un nouveau partenariat dans le Sahel en incluant davantage les pays du Golfe. Alors qu'en pensez-vous? Comment améliorer la lutte contre le terrorisme? Pour en parler, nous serons en ligne depuis Conakry avec Boubacar Sanso-Barry, il est analyste, administrateur du site lejelly.com. Il a publié un texte sur son site intitulé « G5 Sahel, chronique d'une disparition programmée ». Pour participer à l'émission, nous faire part de vos commentaires, posez vos questions à notre invité. Composez le 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Ce numéro est valable partout dans le monde. Idem pour le numéro WhatsApp d'Africa Radio. Envoyez-nous vos messages indirectement dans le studio. Je vous donne le numéro, c'est le 33 7 66 19 77 69. 33 7 66 19 77 69. Mais avant cela, place, comme de tradition, sans plus tarder, à vos messages et aux répondeurs d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Oui, bonsoir, Africa, numéro 24. Moi, je suis Diez. J'interviens parce que j'ai des soucis que me font le pouvoir en place. Je m'explique. Les partisans de Dramane Ouattara, ou bien même les Ivoiriens, disent qu'il y a des ponts, il a construit des ponts, des hôpitaux, même des trams. Il a tout fait, c'est très bien. Aucun autre ressortissant d'un pays ne peut réfugier ces gens d'effort, ce travail-là. On est tous d'accord. Mais mon souci est que comment on peut expliquer la majorité de ces Ivoiriens qui ont profité du bien de ce bienfait de Dramane Ouattara? Aujourd'hui, le ministre de ce même gouvernement nous dit que on va aller recruter des gens, on recrute des gens pour nous élire. Et il y a un autre ministre aussi qui dit qu'on endette, on va endetter, jusqu'à ce que demain nos petits-enfants vont payer. Bien. Mais malgré tout ce qu'on nous dit, qu'est-ce qui explique ça? Je ne comprends pas quelqu'un qui est populaire. Pourquoi il lâche pas la CEI? Pourquoi il ne la lâche pas? Si c'est que j'ai confiance.
Africa Radio, bonjour. Monsieur Blegoudé, l'intrépide et cynique chef des jeunes patriotes n'a pas envie de retourner en Côte d'Ivoire. Voilà que monsieur Blegoudé vient de faire une demande d'asile auprès de l'Italie. Malheureusement pour M. Blegoudé, l'Italie vient de refuser sa demande d'asile. Alors, question. M. Blegoudé a-t-il envie de faire la politique en étant exilé en Occident et en même temps parler de la Côte d'Ivoire, ou a-t-il envie réellement de retourner en Côte d'Ivoire? Mais ça ne sert à rien de rester loin et de toujours lancer des piques aux dirigeants qui sont là en ce moment. À bientôt.
Bonjour Stéphanie, bonjour tous les auditeurs de Radio Africa. J'interviens ce matin par rapport à l'ancien, c'est comme ça on peut le dire, l'ancien ministre d'Intérieur de l'Italie, qui se croyait dessus de Dieu. C'est après lui, c'est Dieu qui vient. Mais Dieu lui a montré que non. C'est lui qui fait le miracle. Quand il veut, l'air qu'il veut. Il pensait aujourd'hui, comme il avait un peu plus que les autres, ils les sont passés, et lui va détruire l'Assemblée, être le, comment on appelle, premier ministre de l'Italie. Voilà, Dieu a mis fin à son pouvoir. C'est Dieu qui fait ça. Là, tout ce qui est sous la terre, ça appartient à Dieu. Ça appartient à aucune personne. Merci, Stéphanie, et merci, Fofana.
Bonjour, cher auditeur. C'est Karim Benjamin Mati. beaucoup de Congolais de la majorité présidentielle de Sassou sont montés en France pour écouter ce que les Congolais pensent. Nous pensons clairement le départ de Denis Sassou Nguesso avant 2021. S'il continue à persister, sa vie en dépendra. Car le Congo ne peut pas rester 50 ans avec un même président. La tendance démocratique s'impose afin que le Congo aille mieux, que la bonne gestion arrive, que la bonne gouvernance arrive avec les soins de l'opposition.
Bonjour Madame Hartmann, bonjour les amis de JDA, bonjour le peuple africain et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Nous voyons, il y a la forêt qui est en train de s'écabouter, la forêt au Brésil. Il y a du feu partout, le monde entier parle. Mais quand nous regardons aussi en Afrique, au Congo, c'est la deuxième forêt après l'Amazonie, la forêt équatoriale. Mais il y a les reboisements, il y a les gens qui coupent de bois, il y a des multinationales qui viennent récupérer du bois et faire vraiment de la forêt équatoriale à la République démocratique du Congo comme vraiment peuple congolais, une bouffée bien où les gens rentrent sans vraiment désordre, les gens rentrent, sortent sans que soit inquiété. Mais le monde ne parle même pas. Où nous allons faire un sommet Afrique et le monde. Restons ensemble, peuple africain, peuple congolais.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Petite annonce, vendredi, vous le savez, hein, toute la journée spéciale DJ Arafat sur Africa Radio. À cette occasion, le journal des auditeurs en sera intégralement consacré à vos hommages. N'hésitez pas à nous laisser d'ores et déjà vos messages, vos témoignages, vos souvenirs sur les musiques d'Arafat, ce qu'il représentait pour vous. Bon, il y aura un petit mot aussi des polémiques qui entourent ces hommages. Rendez-vous donc pour cela sur le répondeur d'Africa Radio. Le numéro, c'est 33 1 55 07 58 05 ou sur nos réseaux sociaux Facebook ou Twitter. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, le G5 Sahel est-il menacé de disparaître ? Nous en parlons avec Boubacar Sanso Barry, analyste et journaliste, administrateur du site lejelly.com. Boubacar Sanso Barry, bonjour.
Bonjour, bonjour à vos auditeurs.
Merci d'être avec nous. Alors, vous avez publié un texte sur lejelly.com intitulé « G5 Sahel, chronique d'une disparition programmée ». Alors, vous écrivez que l'annonce d'un nouveau pacte de sécurité dans la zone sahélienne signe tout simplement la disparition du G5 Sahel. Pourquoi, selon vous, l'annonce d'un nouveau partenariat signe-t-elle l'échec du G5 Sahel ? Et cette question, à qui la faute, Boubacar Sanso Barry ?
D'abord, je pense qu'il est évident pour tout le monde que le G5 Sahel n'a pas été aussi efficace que cela a été espéré. Depuis sa création en 2014, il peine à fonctionner, il se débat sur des questions existentielles, sur son financement, sur son opérationnalisation, et ce en dépit notamment du soutien manifeste à la force sous-régionale de la part de Emmanuel Macron. Mais force est de constater 5 ans après que ça ne produit pas les résultats escomptés. Et pour ce qui est de responsabilités, naturellement, la première responsabilité, je pense que ce sont les dirigeants du G5 Sahel, les 5 pays les plus concernés en principe, mais aussi je pense qu'il y a une part de responsabilité de la communauté internationale. Notamment, je pense en premier lieu à Donald Trump, qui a opposé un veto à la volonté de Emmanuel Macron, notamment de placer la force sous le chapitre 7 des Nations Unies, qui aurait permis de dégager suffisamment de moyens pour que la force puisse jouer son rôle. Donald Trump a toujours éprouvé une certaine méfiance à l'égard de cette force conjointe. Du coup, il n'a jamais accepté ça. Par ailleurs, en février 2018, il y a eu un sommet à Bruxelles, le sommet des donateurs, où on avait promis 414 millions d'euros qui devait être décaissé en faveur de la force. Aujourd'hui, plus d'un an après, plus de la moitié de son montant n'a pas été décaissé. Du coup, puisque sur le terrain, les gens ont besoin de moins de protection individuelle, de moins de communication, de moins de transport, mais qu'ils n'ont pas les ressources pour s'octroyer tous ces équipements, malheureusement, ils ne peuvent pas être efficaces.
Vous l'écrivez d'ailleurs, hein, vous dites les engagements n'ayant pas été honorés, les résultats n'ont pas suivi.
Voilà, exactement. Mais là, je pense aussi que cet échec, il y a notamment Emmanuel Macron qui l'envisage un peu d'un point de vue personnel. Juste au lendemain de son élection, il était venu à Ouagadougou, il s'était affiché avec les 5 dirigeants du G5 Sahel, et il avait, dans l'euphorie de sa propre élection, il avait promis qu'il ferait tout pour que la force soit efficace, parce que lui-même a envie de sortir les troupes françaises de ce qui s'apparente à un enlisement dans la zone sahélienne. Donc il avait tout fait, mais sauf que aujourd'hui on constate que ça ne va pas avec l'opposition des États-Unis, avec les donateurs qui traînent les pas. Donc je pense que lui-même accuse le coup et que d'une certaine façon, ça lui rappelle un échec qu'il ne veut pas assumer et qu'il a envie de passer à autre chose. Pour moi, c'est ce qui sous-entend l'annonce de ce nouveau pacte sécuritaire dans la zone sahélienne, un nouveau pacte qui suppose qu'on étend un tout petit peu la force à des pays situés un peu plus au sud dans le golfe de Guinée. On pense au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, à la Guinée, au Ghana, au Bénin et au Togo. Mais la question fondamentale dans cette extension de la force, c'est de savoir quel est le niveau d'adhésion des chefs d'État de la sous-région, désormais de la CEDEAO globalement. Parce que si c'est fait uniquement parce que Emmanuel Macron et peut-être Angela Merkel ont envie de tourner la page d'une expérience qui n'a pas été réussie et que d'une certaine façon ils imposent ça aux dirigeants de la sous-région, je pense que ça ne pourrait pas fonctionner parce qu'il est possible que cela génère des petits conflits d'égo entre les dirigeants de la sous-région. Aujourd'hui, le G5 Sahel, ça met en évidence quelques chefs d'État de la sous-région. Dès que ça va être dilué dans l'espace CEDEAO, naturellement, les rapports de force vont être modifiés. Et c'est pas évident que les gens cautionnent. Peut-être qu'ils peuvent l'accepter du bout des lèvres, mais c'est pas évident qu'ils soient effectivement coopératifs. Et pour moi, c'est peut-être la plus grande menace à ce nouveau pacte en gestation.
On verra justement, Boubacar Sansou-Barry, tout à l'heure, quels seraient les préalables pour que ce nouveau partenariat soit davantage efficace. On va quand même rappeler les membres du G5 Sahel, c'est le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Mali et le Tchad. On va écouter nos auditeurs, Boubacar Sansou-Barry, 33 1 55 07 58 00. On commence avec Diara. Diara, bonjour.
Bonjour Madame Ackman.
Bonjour Monsieur Diara.
Bonjour Africa Radio.
Bienvenue, merci Diara. Vous vous dites, le G5 Sahel, le G5 est un échec depuis le départ. Est-ce que finalement c'est un échec, mon cher Diara, parce que ce G5 est davantage né à Paris que sur le continent africain et qu'on a eu du mal à l'africaniser finalement. Les Africains ont eu du mal à se l'approprier.
En quelque sorte, mais pas seulement. Madame, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de création de G5 Sahel, nous étions intervenus de dire que G5 Sahel, sans l'Algérie, sera seulement une coquille vide. On était intervenus. Donc, j'ai démontré que nos dirigeants ont un manque de vision réelle pour notre continent. Et la plupart de ces pays qui composent G5 Sahel, madame, ils ont aucune capacité de transporter les troupes et les déplacements de matériel. Comment on peut oser de mettre une telle organisation sans réel moyen, car nous savons aujourd'hui les zones de ces états de cette zone qui menace presque toute l'Afrique. Nous savons que sans l'Algérie, il n'y a aucun de ces pays-là ont la capacité de circonscrire cette menace. Donc, nous avons déjà une organisation solide des bases. Il y a six qui est les États sahélo-sahéliennes. si nous voulons vraiment lutter réellement, madame, contre le terrorisme, il faut vraiment éviter tous ces pays qui composent CIS pour vraiment mettre une organisation solide et avec une telle moyen qui sera africaine pour lutter réellement contre le terrorisme si elle existe réellement dans nos pays.
Effectivement, vous faites référence au CILS, hein, si j'ai bien compris, Monsieur Diarra, c'est le Comité Inter-État de lutte contre la sèche au Sahel. Et effectivement, il y a aussi plusieurs organisations hein, sous-régionales en charge de l'insécurité dans la région. Je pense aussi hein, au processus de Nouakchott. On va demander tout à l'heure un commentaire à Boubacar Sansobari. Merci beaucoup, Diarra, de votre intervention. On va écouter Canal Amboni. Bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à toute l'Afrique.
Bonjour Kana Lamboni. Vous entendez Diarra qui dit finalement, voilà, si ça inclut pas l'ensemble des pays, et dont l'Algérie, oui. Toute initiative sous-régionale de lutte contre le terrorisme sera vouée à l'échec.
Je suis tout à fait d'accord avec lui, et je fais savoir aussi que en Afrique, il y a des exemples comme le Nigeria et le Cameroun qui ont déjà réussi à repousser Boko Haram et on pourrait s'en servir de cette expérience-là. Je ne vois pas comment la France ou bien l'Allemagne pourrait venir aider parce que déjà, il n'y a aucun exemple qui montre que la France a déjà fait ce pareil truc sur le territoire africain. Et de plus, la France a plutôt tendance à foutre le bordel qu'autre chose. Nous avons le cas de la Libye, de la Centrafrique, où il a fallu que ce soit la Russie qui intervienne pour qu'on commence à avoir un peu d'ordre. Donc aujourd'hui, les Africains doivent comprendre qu'ils doivent mettre en place eux-mêmes leur propre stratégie. Hein, parce que nous avons l'impression d'avoir des chefs d'État qui sont plus des préfets que des gens qui aspirent à une meilleure vivre de leur population. Or, c'est pas très compliqué à faire. Il faut tenir compte des gens qui sont plus proches.
Vous entendez notre invité, hein, Boubacar Sansobari, c'est ce qu'il dit souvent beaucoup, notamment en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup de défiance aussi entre ces chefs d'État.
C'est ça. On n'est pas, on n'a pas d'autre solution. L'Afrique, pour exister, doit s'unir. Sinon, on est en train d'aller vers la balkanisation de toute l'Afrique. Voilà.
Merci Kana Lamboni pour votre intervention. Boubacar Sansobari, je reviens vers vous. On va commencer peut-être par la deuxième intervention. Je le disais tout à l'heure, est-ce que finalement le problème du G5 Sahel n'est-il pas qu'il aura été africanisé au forceps ? Et qu'avez-vous pensé de cette mise en scène entre Angela Merkel et Emmanuel Macron qui annonce un nouveau partenariat devant le président burkinabé, Roch Marc-Christian Caboret ?
D'abord, y a, symboliquement, je pense que même l'annonce de ce nouveau partenariat, que ça se passe à Biarritz, que ça ne se passe pas sur le terrain dans un des pays africains, symboliquement, ça veut dire que l'initiative est davantage portée par Emmanuel Macron, par Angela Merkel, parce que sous le prétexte que ce sont eux qui vont faire le lobbying, ce sont eux qui vont faire en sorte que les ressources arrivent. Maintenant, je suis d'accord avec globalement les deux interventions qu'on ne réussira jamais, et ce n'est pas que la question terroriste, on ne réussira jamais à relever les défis africains si on est dans la logique de l'assistanat, du soutien de l'autre. Nous devons avoir les moyens de nos propres politiques et pour moi, il suffit de s'organiser, il suffit de volonté. Les ressources, on peut les trouver sur place. Seulement que nous avons été formatés de manière à croire exclusivement, systématiquement, que si les aides, les soutiens ne viennent pas d'ailleurs, on ne peut rien faire sur le continent. Et l'autre chose, idéalement, l'Algérie devrait être impliquée dans la lutte contre le terrorisme dans la zone sahélienne. Sauf que il y a une sorte de
principe peut-être en Algérie. L'Algérie est très nationaliste quand même.
Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a même une sorte de querelle latente entre les pays du sud de l'Algérie et l'Algérie, parce que beaucoup pensent. Moi, j'ai pris part à quelques rencontres sous-régionales où beaucoup estiment qu'en réalité, cette explosion du terrorisme dans la région, l'Algérie et la guerre civile qui a éclaté dans ce pays dans les années 90 ne sont pas étrangers à cette explosion. Donc, il y a beaucoup qui jugent que l'Algérie est plutôt responsable de l'explosion du terrorisme dans la région et que
Conséquemment, ils ont de la peine à aller vers l'Algérie pour solliciter une coopération de la part de ce pays afin de lutter contre le terrorisme. Maintenant, il y a la dimension nationaliste où l'Algérie est très jalouse de sa souveraineté, Donc, il y a tous ces paramètres-là.
Merci Boubacar Sansobari. Alors justement, je vais vous lire un message d'archiduc Théodore de Djamena sur Facebook qui va aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. Il dit « Pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faudrait que les pays touchés s'appliquent réellement avec détermination à combattre en utilisant tout moyen. » Il ajoute « L'aide d'autrui doit être un appui non obligatoire. » On va écouter Magassa. Magassa, bonjour. Allô ? Oui, bonjour Magassa.
Bonjour, moi je vous appelle pour vous dire que ça ne sert à rien de nous créer des problèmes dans notre région. Puisqu'ils sont dans 4 pays, je ne sais pas 5 pays, j'ai 4, je ne sais pas j'ai 5, puisque Mauritanie ça ne compte pas. Mmh. Eux ils n'ont pas de problème, depuis que ça commence, Mauritanie, on dirait qu'ils ne s'agissaient pas dans les G5 Sahel. Il n'y en a même pas tentative de...
Pourtant le Nouakchott est très impliqué hein, dans le... Je sens que ça
oui, ils sont impliqués, mais Mauritanais, est-ce qu'ils sont en sécurité? Ils sont en sécurité totale là-bas, ils n'ont pas de problème. On n'a jamais entendu qu'ils ont fait attentat à Mauritanais. Ils ont fait dans les autres régions. Bon, nous, quand ils ont fait au début, on dit que ATT n'a pas armée malienne. L'armée malienne, ils sont plus armés que l'armée d'Amérique maintenant. Mais chaque jour, on les tue comme des mouches. Ça ne sert à rien de nous armer. Ce que nous, on a besoin en Afrique, développer notre continent avec les routes, avec l'électricité, tout, après les touristes vont partir. On est pauvre, on n'a même pas de route, on nous crée des grands avions qui ne nous servent à rien. On peut, comme les Ivoiriens disent, on ne mange pas les avions, on ne mange pas les armes. Nous, on a besoin de la nourriture, les routes et le développement de notre continent. On n'a pas ça. Les Européens, au lieu de nous aider à faire ça, ils sont en train de détruire notre pays. Mmh. Et puisqu'ils fabriquent les armes, ils n'ont pas où il faut utiliser. Ils vont aller utiliser ça en Afrique. C'est un champ de bataille pour essayer des armes, c'est tout.
Merci Magassa. Magassa, vous touchez un point intéressant aussi, hein, c'est peut-être l'échec aussi de la réponse sécuritaire Boubacar Sansobari. C'est vrai, hein, le G5 Sahel a essayé hein, de mettre en place des projets de développement. Je crois savoir qu'ils ont plutôt du mal à ce que ces projets aboutissent. En Afghanistan, hein, les Américains ont entamé des négociations avec les talibans. Est-ce que, d'une part, des projets de développement, la mise en place de projets de développement, et d'autre part, des négociations avec les groupes terroristes permettraient peut-être d'améliorer la situation sécuritaire dans le Sahel, selon vous?
Oui, et je pense que même au sein du G5 Sahel, il y a deux piliers. Il y a le pilier sécuritaire et le pilier développement. En fait, le développement souvent, l'approche développement est préconisée souvent de manière préventive. C'est que ça, c'est avant que les gens, les terroristes n'occupent les lieux, que la violence ne soit créée. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a certaines zones du Sahel où il est quasiment impossible d'entreprendre des actions de développement parce que juste que les citoyens, l'environnement n'est pas suffisamment sécurisé. Et maintenant, je suis d'accord que très certainement, c'est le sous-développement, la pauvreté, la précarité ambiante qui ont permis au terrorisme, qui ont favorisé l'installation, l'ancrage du terrorisme. Alors, pour le volet négociation, moi je voulais dire que notre auditeur a évoqué tout à l'heure le cas de la Mauritanie. Et c'est jamais officiel, mais il y en a qui pensent par exemple que si la Mauritanie est relativement épargnée, c'est justement qu'il y a une sorte de deal avec des groupes terroristes. Hein. Il y a le Burkina Faso du temps de Blaise Compaoré n'était pas attaqué comme il est aujourd'hui. On pense que là aussi c'est parce qu'il y avait une sorte d'arrangement entre Blaise Compaoré et les groupes terroristes de la région. On commence à évoquer cette piste de la négociation. Maintenant, moi je me dis toujours que peut-être qu'un pays, quand il négocie avec les terroristes, c'est au détriment d'un autre. Parce que après, quand vous avez la paix, les gens vont aller créer des problèmes ailleurs. Donc, pour moi, quelle que soit l'approche qu'il faut entreprendre, qu'il faut envisager, il faut l'envisager d'une manière globale, parce que tant qu'un seul pays sera menacé par le terrorisme, à la limite, c'est tout le continent qui sera dans la tourmente.
Alors justement, une dernière question, Boubacar Sansobari. Quels seraient, selon vous, les préalables pour que ce nouveau partenariat annoncé fonctionne, soit plus efficace que le G5 Sahel?
Voilà. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que d'abord, on s'assure que les pays de la région adhèrent de manière libre et authentique à cette dynamique. Et puis, par ailleurs, les gens doivent comprendre que même... Plutôt quand on élargit, quand on fait l'extension du G5 Sahel aux autres pays du Sud, ça requiert davantage de moyens que ce qu'il aurait fallu donner quand le G5 était réduit seulement aux cinq pays les plus concernés. Donc, ça ne les dédouane pas, ça ne les dispense pas. Plutôt, l'extension doit s'accompagner d'une volonté plus manifeste d'apporter les ressources, parce que encore une fois, il ne sert à rien de tenir des discours si, à la base, on n'est pas capable de poser les actes qui peuvent permettre de rendre efficace les dispositifs qu'on met en place.
Merci Boubacar Sansobari. Il nous reste encore 3 minutes. On va peut-être conclure l'émission en écoutant 2 autres auditeurs. Il y a Amadou qui voulait intervenir. Amadou, bonjour.
Bonjour Stéphanie, la princesse de l'Africaine. Bonjour Radio Africa. Moi, j'interviens sur G5.
Bonjour Amadou, merci.
Mon point de vue, en tant que musulman, pour moi, l'islam est ma famille religieuse, donc la religion n'a pratiquement rien à voir avec dans la politique nationale. Parce que la politique, les pays, comment qui assument leur responsabilité, protéger leur peuple, toute politique ne devrait pas se mélanger avec une doctrine religieuse, une loi divine religieuse, de la charia, de l'Arabie Saoudite, d'accord, je le comprends.
Oui.
De sacralisation, ils pouvaient être théologiques, ça, c'est un cas spécial, le contexte social de l'Arabie Saoudite, tous les musulmans ne peuvent pas se faire à l'Arabie
Saoudite. Vous pensez qu'Amadou, que les terroristes ont un projet comme ça de créer un État islamique?
Mais bien sûr, parce qu'ils disent que Dieu a droit à tout, mais Dieu il suffit à lui-même, il n'oblige pas ses créatures de l'adorer. Donc sur ce côté-là aussi, c'est la communauté musulmane, et je comprends, qu'il faut résoudre tout ça.
Amadou, laissez-moi un peu de temps pour que Monsieur Boubacar Sansobari vous fasse passe peut-être de son regard. On le sait, hein, il y a eu beaucoup d'amalgames depuis que ce terrorisme a explosé, hein, Boubacar Sansobari, dans le Sahel. Oui. Est-ce qu'on peut dire que les terroristes d'aujourd'hui sont loin de l'idéologie religieuse, ou qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, je pense qu'on est plus dans l'instrumentalisation de la religion. Sinon, je ne pense pas qu'une religion, quelle qu'elle soit, promeut les massacres, promeut les enlèvements et tous les autres actes délictueux que les terroristes posent quand ils s'installent sur un espace donné. Non, je pense que ils instrumentalisent la religion, ils profitent quelquefois de la naïveté et de l'ignorance des citoyens, et puis ils profitent aussi, comme on l'a dit, de la pauvreté ambiante. Pour moi, c'est l'absence de l'État, sont les insuffisances de l'État dans ces différents territoires qui laissent de la place, qui donnent des opportunités au terrorisme. Sinon, globalement, de partout dans le monde, on sait désormais que ce n'est pas que les gens soient outre mesure préoccupés par l'idéologie religieuse en tant que telle.
On arrive à la fin de cette édition. Merci beaucoup, Boubacar Sansobari, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes administrateur notamment du site lejelly.com, et j'invite les auditeurs à aller lire votre papier, G5 Sahel, chronique d'une disparition programmée. Bonne journée à Conakry, Boubacar.
Bonne journée à vous, bonne journée aux auditeurs.
Merci beaucoup, merci à tous d'ailleurs, chers auditeurs, de votre participation à cette émission. N'hésitez pas à continuer le débat sur les réseaux sociaux, #JDA. On se donne rendez-vous demain, vendredi, pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs, émission spéciale DJ Arafat, on l'a dit, hommage, analyse ou encore polémique et culture du clash. On en parle demain. Pour vous inscrire, laissez un message sur le répondeur au 33 1 55 07 58 05 ou sur la page Facebook du Journal des Auditeurs. Prenez grand soin de vous à l'écoute d'Africa Radio, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. À demain.
Africa. Le JDA, c'est sur Africa Radio.